Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va?
Eh bien, grâce à Dieu, avec le catéchisme.
Tout va bien. On en arrive à un nouveau paragraphe qui s'intitule « L'Église est une sainte catholique et apostolique ». C'est au numéro 811 du catéchisme de l'Église catholique. On connaît bien ces quatre attributs, comme on dit. On s'en souvient quand on chante le credo, c'est souvent le moment où les catholiques se réveillent en latin, où on dit « Et unam sanctam catholicam
bon, ». Et apostolicam.
Et apostolicam. Et est-ce que ces quatre attributs ont été inventés par une personne en particulier, un évêque par exemple, dans des temps anciens, ou est-ce que c'est un concile qui a vu ça tout d'un coup, ou d'où viennent ces quatre attributs?
Alors, je répondrai sous un double aspect, d'abord un aspect historique et puis un aspect plus philosophique. Sur l'aspect plus historique, il y a eu découverte progressive de ces attributs, de ces notes, comme on les appelle, qui caractérisent l'Église. D'abord, l'Église a été déclarée sainte dans les premiers écrits sur l'Église, et puis très vite s'est ajouté le mot catholique. Sainte parce que, dans le fond, c'était le sang du Christ qui avait donné cette Église. Il s'était formé cette Église suite à ce sang versé, comme dit les actes des apôtres, et donc elle était d'abord sainte. Et puis catholique, par opposition au culte mythique ou impérial qui était diffusé dans le Moyen-Orient à cause des Romains ou des Grecs, et il fallait montrer qu'elle était de nature à toucher la raison, et donc qu'elle était universelle, catholique. Et puis très vite, l'origine est montée dans le cœur de ceux qui ont soutenu la vraie foi en disant qu'elle était apostolique par rapport à tous ceux qui allaient vers des gnoses ou des divisions. Et l'apostolicité qui repose sur les 12 apôtres a été très vite affirmée. Et on voit ça donc progressivement, par exemple dans le credo copte, vous avez le mot sainte, catholique, apostolique, et elle n'est pas encore déclarée une. Par contre, dans la formule éthiopienne, elle est appelée une et catholique, et sainte. Donc c'est intéressant, elle n'est pas dite apostolique. Et donc là, il y a eu un jour une concentration de ces titres, et on le voit pour la première fois arriver de manière concentrée avec Épiphane de Salamine, qui a beaucoup lutté contre les hérésies, dans son traité Encore à tous, en 374, il est le premier, semble-t-il, à avoir accumulé les quatre notes. Donc, Mian, une, Agian, sainte, catholicaine, catholique, apostolicaine, apostolique. Donc c'est très beau, c'est ce père de l'Église qui a beaucoup fait contre les hérésies, qui le premier l'aurait donné, et on le retrouve très naturellement dans le symbole de Constantinople I en 381, où on retrouve en grec ce que je viens de dire, mais avec la traduction latine, puisque c'était un concile qui voulait être transmis aussi en Occident, donc traduit par les scribes de l'autorité publique de l'empereur, unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. C'est la formule de notre credo. Donc c'est très touchant de voir comment, petit à petit, par concentration successive, les quatre notes ont été trouvées. Alors je dirais qu'à côté, il y a une raison philosophique. C'est l'aspect des causes, la causalité est universelle. Et quand il y a une réalité, il faut toujours chercher la cause efficiente, d'où cela vient. Et c'est bien sûr la note apostolique qui va avec la causalité efficiente, puis la causalité finale qui donne la raison d'une réalité. Et c'est évidemment la sainteté Tout est orienté pour que nous soyons saints, comme c'était déjà dit d'ailleurs dans la première assemblée, la première ecclésia, la synagogue, « Soyez saints car moi je suis saint hein, » dans Lévitique 19. Et entre les deux causes finales et efficientes, eh bien, il y a les causes unies formelles et matérielles. Eh bien, formelle, c'est évidemment l'unité, l'unité qui donne sa consistance à une réalité, qui donne sa détermination. Et catholique, c'est le lieu d'extension, dans le fond, matériel, jusqu'où va une réalité qui donc s'impose par sa forme dans une matière précise. Donc on retrouve avec ces quatre causalités, causalité efficiente, causalité finale, causalité formelle et matérielle, les quatre causes aristotéliciennes, et puis on pourrait rajouter la causalité exemplaire. C'est ce que disait une fois Pionze avec humour à des séminaristes à qui il avait demandé quelles sont les notes de l'Église catholique. Alors, ils avaient tous répondu d'un seul trait, une sainte catholique et apostolique, très Saint-Père. Et il avait dit, il en manque une, c'est d'être persécuté. Et l'Église a toujours été persécutée parce qu'elle est toujours dans l'exemplarité de son chef qui est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Donc c'est très beau, on retrouve une structure tout simplement du réel. Et l'Église étant réellement visible, tangible, qu'on peut la voir, on peut l'entendre, elle s'exprime, eh bien, elle répond dans la réalité qu'elle est à ces cinq causalités.
Par cette cause exemplaire, on a aussi ce lien, enfin Jésus est aussi un, catholique, apostolique et saint. Et donc ça fait un pont avec l'Église aussi.
Oui, puisque Jésus est la tête du corps, comme on l'a vu dans les temps de réflexion que nous avons eu avant, il est l'époux de l'épouse, et de par le fait, lui-même est envoyé du Père. Et d'ailleurs, il nous envoie sur le modèle de la façon dont le Père l'envoie. C'est ce qu'il dit au jour de la résurrection, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et donc cette apostolicité remonte finalement à sa propre mission de fils bien-aimé du Père qui est envoyé pour le salut des hommes. Donc on retrouve exactement ces notes qui sont assumées par Jésus, qui dans sa personne, eh bien, est Dieu et homme, et ça ne fait pas une dualité de personnes, mais une seule personne qui est à la fois Dieu et homme, et on retrouve l'unité, on retrouve aussi la catholicité, puisque Jésus est partout avec nous, où que soit son Église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc c'est finalement très touchant de voir que Jésus cumule en lui-même ses notes et que l'Église est dans le fond Jésus prolongé et actualisé dans son Église.
Tu nous as montré l'ancienneté de ces notes, de ces traits, de ces quatre attributs. Mais donc ça veut dire que à cette époque ancienne, on s'intéressait déjà à l'Église, on voulait la qualifier, on la connaissait. Donc c'est pas non plus, l'Église n'est pas une invention récente ou une institution. Il y a quelque chose, une réalité qui est déjà là et on a voulu lui donner ses attributs, montrer ses attributs à une époque très ancienne.
Oui, je pense que c'est tout simplement comme le mot invention le dit, le mot invention, c'est pas qu'on fait de quelque chose une, je dirais, une sorte de réalité qui serait comme tirée de rien, non. C'est plutôt une invention au sens ancien du terme, c'est-à-dire une mise en lumière, une explicitation. C'est ça. Par exemple, on parle de l'invention de la croix. La croix, elle a existé depuis Jésus. Mais l'invention de la croix, c'est sa redécouverte au moment où Sainte Hélène a exhumé cette croix qui était enterrée autour du Saint-Sépulcre. Et dans le fond, c'est ce qui s'est arrivé pour les quatre notes de notre credo. C'est que chacune de ces notes a été exhumé en quelque sorte de la foi des chrétiens, du sanctus fidei des chrétiens, et petit à petit, ils ont été homologués, reconnus par le magistère et concentrés dans un seul symbole. Donc c'est magnifique de voir que la foi est capable d'intelligence, que la foi suscite l'intelligence et est capable de formuler dans le fond des expressions qui l'explicitent le mieux possible pour que nous puissions le retenir et le dire avec beaucoup de force et de conviction. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Oui, qui suscite non seulement une connaissance meilleure de notre Église, mais aussi un amour plus grand, parce que tu fais le lien avec le Christ et ce don qu'il nous fait par cette Église.
Oui, tout à fait. Et on a sans cesse besoin de nous souvenir donc de cette vérité que, dans le fond, nous sommes faits pour aimer l'Église, et c'est celui qui a l'Esprit Saint qui aime l'Église, disait saint Augustin. Et donc, nous ne pouvons que souhaiter à tous nos auditeurs cet amour de l'Église dans l'Esprit et d'avoir de plus en plus une union intime avec le Saint-Esprit pour aimer l'Église.
Dans ce numéro 811, on dit que ces quatre attributs indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. Est-ce que ces quatre mots, avec ces quatre mots, on dit tout de l'Église, ou est-ce que là il y a juste un des très essentiel, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi?
Oui, on a vu par exemple que l'Église était persécutée. Oui. Ben, ça aussi c'est un attribut qu'on peut ajouter. Donc oui, c'est vrai que ces quatre correspondent bien au réel d'une finalement, tel que cela est donné, avec les quatre causalités qui permettent de dessiner les contours, mais après, évidemment, l'Église particulière à Jérusalem n'est pas la même que l'Église particulière dans le monde, ou l'Église de Rome, ou telle et telle Église. Il va y avoir des configurations multiples et variées, des particularités locales.
Très bien. Merci, frère Edouard.
À tout bientôt.
À bientôt.